Vous écoutez
RMC.
Salut, c'est Didier Deschamps.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée un peu, non?
Enchanté Didier. De retour dans les grandes gueules du sport, 10h08, votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. On est très heureux évidemment d'être avec vous. Merci beaucoup de votre fidélité. Sachez que si vous avez manqué la première heure, on parlait de rugby notamment avec ce match France-Afrique du Sud ce soir au Stade Vélodrome. N'hésitez pas à aller nous podcaster. Toujours avec Christophe Cessieux, Stephen Brun, Simon Dutin, Marion Bartoli. D'ailleurs, est-ce que vous savez, les GG, qu'on fait un carton, véritable carton en podcast?
Ah oui, on a pété les records.
Ah, c'est une folie. Le mois dernier, donc c'était le mois d'octobre, voilà, on est à quasiment 500 000 téléchargements par mois. Donc merci infiniment de votre fidélité. Très heureux ou pas? Vous êtes non, le champagne sera pour tout de suite.
On est fiers, tu veux dire? Ouais, bien sûr qu'on est fiers.
On attend le million, non?
Enfin, péter le million, j'invite tout le monde.
Le million.
Que les gens ne nous écoutent plus le matin, ils nous écoutent qu'en podcast, en gros, c'est ça?
Mais bien sûr.
Voilà, le grinch, voilà. Le grinch, quoi, tout de suite.
Mais et puis il y a beaucoup de gens qui nous écoutent deux fois pour retrouver les vannes de Stephen Brun, par exemple.
En podcast, ça permet aussi d'avancer sur la chronique. C'était mieux avant, ça, ils avancent rapide et ils passent à autre chose.
Ouais.
C'est dégueulasse.
Moi, c'était pour être sympa, bien, mais je sens que vous allez quand même vous engueuler
si
sur ce sujet.
D'audience, si c'est ma chronique ou si t'es van poireuse.
Chacun son égo, c'est très bien, vous avez bien raison. Dans quelques instants, nous allons passer la seconde autour de la liste de Didier Deschamps. Cette équipe de France vous fait-elle rêver? 10h30, un homme heureux, Pierre Amiche, attaque à la FIFA, qui a interdit cette semaine au Danemark de porter un t-shirt pro-droit humain durant les entraînements. Et puis 11h, le bras de fer des GG, magnifique Caroline Garcia, qui a remporté le Master cette semaine, est-elle entrée dans l'histoire du tennis français? Il y aura une team histoire, une team pas encore. Alors cette semaine, je le disais, Didier Deschamps n'a pas fait dans le sentiment, mais dans le centimètre.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Bonsoir.
Il ne connaît pas la pitié.
La quoi?
Ni les remords.
Oui, c'est une perte. Bien évidemment.
Ni la peur.
Toi, t'as marqué quoi?
Et rien au monde ne peut l'arrêter.
Oui, oui, merci, oui, ça je sais. Oui.
Didier Deschamps a dévoilé donc la liste des 25 sélectionnés pour la Coupe du Monde au Qatar.
L'information, c'est que Klaus, qui est très performant avec l'Olympique de Marseille, n'est pas appelé par Didier Deschamps.
Il me prend le cœur.
Jonathan, oui, mais j'ai bien conscience de son immense déception. J'en rajouterai un autre, Lucadigne aussi, qui a un certain nombre de sélections.
Tu ne ressens rien?
Je pourrais faire pour atténuer.
Les cyborgs sont insensibles.
Après, c'est des choix sportifs. Le système est la principale raison.
Non, c'est un monstre, un pur psychopathe. Je m'as brisé le cœur.
Il a fait des choix, Didier Deschamps, avec évidemment Jonathan Klaus, notamment, qui n'a pas été sélectionné, Lucas Digne, Ferland Mendy, bref, un sélectionneur qui doit faire des choix. Mercredi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 25 joueurs qui disputeront le mondial, 25 joueurs pour défendre le titre, 25 joueurs pour une troisième étoile. Je résume grossièrement, ça ne veut pas dire que je vais être grossier, Stephen. Un retour à une défense à 4 pour être solide, un milieu de terrain très inexpérimenté et une attaque de feu. Alors la musique qui fout les jetons, et cette question, t'as vu, j'ai pas été grossier. Cette équipe de France vous fait-elle rêver? Oui ou non? Stephen Brun?
Oui.
Christophe Cessieux?
Non.
Mario Bartoli?
Oui.
Simon Dutin?
Oui, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis d'accord avec Stephen, Marion.
C'est fou, ça.
C'est fou,
tu t'es ramolli, je trouve.
Je suis étonné.
Par contre, il y a toujours le. Je trouve grincheux.
Heureusement qu'il y en a un, autrement il n'y aurait pas de débat. Heureusement qu'il y a un je trouve grincheux quelque part.
Trois oui.
Non, mais.
Un non avant de.
Et vous verrez,
sur
le tennis, ce sera pareil.
Didier Deschamps, on l'écoute en conférence de presse. Lui a confiance en ce groupe. Et évidemment, sinon, l'inverse, t'étais ballot, Didier Deschamps.
On est dans une situation difficile, mais compliqué pour toutes les équipes. Après, est-ce que nous, on est plus touchés que chacun aura sa propre interprétation? Il y a beaucoup de blessés. Il y en a un dernier hier, avait Mané, le Sénégal. Et il y a des joueurs qui jouent ce soir, il y en a qui jouent ce week-end. Et même des joueurs qui n'ont pas de problème, ils peuvent avoir un souci, c'est les impondérables. Il y en a toujours. Là, on en a eu, évidemment, des importants. Moi, j'ai confiance en ce groupe. Et je suis sûr qu'il va tout faire pour livrer bataille.
Didier Deschamps, donc, avec nos envoyés spéciaux cette semaine en conférence de presse. Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Cette équipe de France vous fait-elle rêver? J'ai le nom avec Christophe Cessieux. Pourquoi non?
J'aimerais bien savoir ce qui vous fait vraiment rêver dans cette équipe de France. Si c'est le trio d'attaque, c'est ça, en fait, qui vous fait rêver?
Benzema,
Griezmann. Oui, c'est, alors, sur le papier, c'est magnifique. Moi, j'étais vachement excité avant le début de l'Euro. Lorsqu'effectivement, on a annoncé le retour de Benzema, ça allait être fantastique. On avait les deux meilleurs attaquants du monde, on allait leur mettre une pâtée à tous, et regardez ce qui s'est passé, ça a été magnifique. Donc je suis beaucoup moins excité par cette association, je me demande si elle va marcher, je me demande déjà si Benzema sera vraiment en état, parce que quand même, ça commence à être un petit peu inquiétant.
Il a rassuré hier à Lyon, où il présentait le Ballon d'Or, en disant qu'il s'économisait.
Oui, sans doute.
Je précise.
On verra ce que ça donnera, mais moi j'attends vraiment pas mon émerveil de cette équipe de France. Ce serait déjà très bien si on se qualifiait pour les huitièmes de finale, mais j'ai un peu de mal à imaginer qu'on aille beaucoup plus loin. Oui, je sais, vous êtes des éternels optimistes et que vous voyez les champions, les Français champions du monde et meilleurs footballeurs de la planète, monsieur Dutin. Moi, j'y crois pas. Une Coupe du Monde, ça se gagne avec une défense de fer. L'équipe de France qui a gagné en 98 avait une défense de fer, avait un milieu très expérimenté. Ça a été le cas également en 2018. Là, on a un milieu, il y a des bons joueurs, mais c'est des mecs qui n'ont pas l'expérience de ces longues compétitions. Donc, on va voir ce que ça donnait. La défense, on revient à une défense à 4. J'espère que ça va fonctionner, mais là aussi, il manque un peu de monde. Et puis donc, il y a effectivement ce trio d'attaque. Mais enfin, Griezmann, il n'est pas au sommet de sa forme en ce moment. On va voir ce que donneront Mbappé. Et Benzema, mais franchement, elle ne me fait pas rêver, non. Je suis désolé.
Christophe, là, en fait, toi, tu te projettes sur le résultat de cette équipe de France, sur la projection.
Mais non, même la façon de jouer. Elle te fait rêver quand elle joue l'équipe de France.
N'importe quelle équipe qui présente Karim Benzema, Ballon d'Or, et Kylian Mbappé. Elle me fait exciter. Elle m'excite.
Elle me fait rêver.
On a vu que c'est un duo fantastique. Oui, mais là, tu me parles d'une compétition où on connaît la finalité, où on s'est fait sortir par la Suisse au tir au but. Ces deux joueurs, rien qu'à eux deux, me donnent envie de regarder cette équipe de France.
C'est clair.
Et tous les sélectionneurs au monde qui vont être à la Coupe du Monde ont les yeux de chimène pour cette équipe de France. Rien qu'avec ce duo-là. Tu rajoutes Antoine Griezmann, qui est quand même un joueur réputé au plus haut niveau européen. Après, on me dit, on n'a pas l'expérience. Arrêtons de jouer les pisse froids. Moi, quand je vois Aurélien Tchouaméni, aujourd'hui, qui était titulaire à la Ligue des Nations sur un Final Four où il a été fantastique, où la France a présenté un magnifique football contre la Belgique et l'Espagne. Ce gamin, il arrive au Real Madrid. Tu me parles de pression d'une Coupe du Monde. Il arrive dans un vestiaire où, quand il doit serrer la main, il n'y a que des stars. Pression, René Tchouaméni, il l'a plutôt bien encaissé jusque-là. On parle d'Adrien Rabiot, il n'est pas très bon. Mais Adrien Rabiot, il a joué que des grands matchs dans sa carrière. Désolé, une Champions League, pour moi, c'est des matchs aussi importants, aussi avec une aussi forte pression qu'un match de Coupe du Monde. Derrière, t'as des mecs qui sont là. Alors, il y a des incertitudes, Varane, Kimpembe, blessure, pas blessure. Ils sont là. Moi, cette équipe de France, arrêtons de voir Paul Pogba et N'Golo Kanté. C'est plus Pogba et N'Golo Kanté 2018. Dans quel état ils auraient été? Est-ce qu'ils auraient été bons? En 2018, Benjamin Pavard. Est-ce qu'on l'attend à ce niveau-là? Qui vous dit que Tchouaméni ou que Rabiot vont pas être capables de faire une Coupe du Monde comme on fait Benjamin Pavard? Exactement. Qui est arrivé de Stuttgart.
Et comme Ribéry en 2006.
Soyons positifs. Cette équipe, il y a des joueurs, il y a que des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens.
C'est vrai qu'elle nous a tellement régalé depuis un an, cette équipe de France. On a tellement envie, elle nous fait tellement rêver.
Franchement, on est champion du monde en titre.
Ah oui, c'était il y a 4 ans.
Et là,
avec
pas les mêmes joueurs. La question, c'est pas est-ce qu'on s'est régalé. Le rêve, par définition, c'est irrationnel. C'est des projections. On a envie. C'est le début d'une Coupe du Monde. C'est la Madeleine de Proust.
Le rêve.
Excuse-moi, on va aller voir la définition dans le Robert. Le rêve, est-ce qu'on rêve avec
petit Robert
de France?
Le gros Larousse.
Ouais. Alors,
tu rêves la réalité.
Je me suis dit, est-ce que c'est parce que je me fais avoir à chaque fois ou pas? Bon, alors déjà, on rappelle, on est la seule sélection, on a joué trois des six dernières finales de la Coupe du Monde. Donc, si tu rêves pas avec n'importe quelle équipe de France, c'est que tu suis pas vraiment ces résultats. Je suis allé voir. Alors, effectivement, en 2018, moi, il me manque un peu de créateurs, effectivement, dans cette liste de Deschamps, toi, les Fekir, les Thauvin, les machins, même s'ils ont pas eu un rôle prépondérant. En 2018, ça manque à la marge de créateurs sur le banc. Mais donc, du coup, je suis retourné en 2014. Est-ce qu'on rêvait en 2014? Bon, Coupe du Monde au Brésil.
Alors,
je cite le nom des mecs qui sont plus là, mais total respect pour leur carrière. Mais bon, Landreau, Ruffier, Debuchy, Digne, Evra, Koscielny, Mangala, Mamadou Sakho, Bakary Sagna, Johan Cabaye, Rémi Cabella, bon, Mathudi, ok, Morgan Schneiderlin, Moussa Sissoko, Valbuena, Loïc Rémy, on rêvait avec ça ou pas? Bon, on est allé, la fleur au fusil au Brésil, et on était ravis. Et on y croyait. Donc, Stephen l'a rappelé, Kylian Mbappé, pas loin d'être le meilleur attaquant du monde en
en tout cas la plus grande star du football mondial, Karim Benzema, oui, qui enchante tous les amoureux de ballon. On oublie Ousmane Dembélé qui au Barça est exceptionnel, et on croit avoir compris que Deschamps en fait quoi, le remplaçant de Griezmann en numéro 10. Ça m'excite, ça me fait rêver, j'ai envie de les voir. Et pour terminer, tu disais il faut une défense solide. Alors c'est vrai qu'il y a des incertitudes avec les mecs qui reviennent de blessures et ceux qui bon, et sur leur état de forme, mais tu regardes la marque de fabrique du football français, c'est qu'il n'y a pas un grand club en Europe qui n'a pas son défenseur central français. Peut-être qu'au Real, il n'y en a plus cette fois-ci, mais sinon tu regardes tous les grands clubs européens, tous les meilleurs clubs en Europe, ils ont un défenseur français, et notamment un défenseur central français. On a sur le papier la meilleure défense, et puis je précise, on
c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas pu jouer, meilleur... il a pris tous les défenseurs centraux français qui jouaient dans les grands clubs.
Le meilleur sélectionneur et le meilleur gardien de but.
Ok, très bien.
Meilleur gardien de but.
Non, meilleur gardien de but, c'est Thibaut Courtois, et de loin. Ça, tu peux pas le. C'est pas Loris qui est meilleur gardien de but, mais sur le reste de l'effectif, bien sûr qu'on a un effectif monstrueux.
Loris est le meilleur gardien de but du monde.
Bon, ouais, on fait pas un débat sur Loris. Très bien. Chacun son avis. Marion, elle te fait rêver, toi.
Mais totalement, mais je suis complètement d'accord avec avec Simon et Stephen. Pour moi, on a le meilleur effectif. C'est que des gars qui jouent dans des immenses clubs, qui ont l'habitude de jouer semaine après semaine de très gros matchs. Alors oui, bien sûr, des incertitudes sur les blessures, mais quasiment, comme l'a dit Didier, toutes les autres équipes ont les mêmes problèmes que nous. Et si la France ne fait pas rêver avec un effectif pareil, qui te fait rêver en fait?
Brésil.
Ouais, le Brésil, ouais, avec Neymar, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Vinicius, Gabriel Jesus, Alisson Becker. Mais on a quoi envie à ces joueurs-là quand tu cites l'effectif français?
Ben, on verra sur le
terrain. Tu vois, Neymar, tu peux mettre totalement Mbappé au même niveau. Tu peux mettre totalement. Oui, mais après, bien sûr que c'est des résultats. Mais si, si un effectif comme l'équipe de France ne te fait pas rêver.
Mais écoute, cette équipe-là.
Christophe, mais ils jouent dans les plus grands clubs européens, et semaine après semaine, c'est eux qui font les plus gros matchs. Qui te fait pas rêver à ce moment-là?
Marion, est-ce que ça veut dire qu'on est toujours favori malgré certaines blessures, malgré cette défaillance un peu au milieu de terrain? On l'a rappelé avec les blessures notamment de Pogba et de Kanté. On est toujours favori, ça c'est sûr, c'est net.
Mais bien sûr qu'on est favori. Je suis persuadée que les sélectionneurs des autres équipes qui vont nous affronter ont bien évidemment de très gros problèmes à gérer. Enfin, je veux dire, quand t'as Mbappé et Benzema dans ton effectif, tu te dis quand t'es sélectionné de l'équipe en face, ouais, il y a pas de souci, franchement, écoute, c'est des petits buteurs, des petits marqueurs, il y a pas un gros niveau, mais attends, t'as le Ballon d'Or, et t'es un des meilleurs joueurs du monde que le Real Madrid voulait s'arracher à prix d'or, et tu te dis non, l'équipe de France fait pas rêver. Mais moi je suis complètement d'accord avec Simon et Steve, bien sûr qu'on fait rêver. Après, le problème c'est que le sport, c'est pas uniquement faire rêver, c'est d'être capable d'aller gagner les matchs. Et il y a une équipe qui est capable en ce moment de gagner beaucoup de matchs, c'est l'Argentine. Alors oui, il y a deux très grands noms qui font rêver, c'est Messi et Di Maria, mais le ils sont incroyablement efficaces. Ils ont 35 victoires d'affilée. Ils ont gagné la Copa América en battant le Brésil. Donc après, c'est faire la différence entre effectivement gagner sur le terrain et faire rêver par des noms. Là, je suis d'accord d'avoir un débat différent. Mais sur le papier, bien sûr que l'équipe de France me fait rêver. Bien évidemment.
Ok, je voudrais vous faire écouter une nouvelle fois Didier Deschamps. On en a beaucoup parlé cette semaine. Je voudrais avoir votre avis sur ce changement de cap de notre sélectionneur. Le passage à 4 défenseurs, ça fait... quasiment un mois et demi que Didier Deschamps avait tenté le 3-5-2, les trois défenseurs centraux. Ça, c'est à la poubelle. Didier Deschamps.
L'option n'est pas une défense à 3, mais ça sera une défense à 4. On a été très souvent en déséquilibre. Et je sais trop bien que pour exister dans une grande compétition, il faudra bien défendre et mieux défendre. Pas au détriment de l'animation offensive, mais si je fais ces options-là, c'est parce que je suis convaincu que c'est mieux, c'est plus adapté, et donc le système, forcément, malheureusement, amène à des choix qui sont dans la structure de la liste et des choix de joueurs qui sont différents.
C'est un aveu de faiblesse ou pas ce retour à 4? Et est-ce que ça veut dire qu'on est vraiment là en plein pragmatisme de Didier Deschamps et on va bétonner derrière?
C'est pas le Star Game, hein, c'est pas la bamboche, hein, Didier Deschamps. En 2018, il a gagné. Rappelez-vous les débats, on a gagné, mais le jeu était. Il fait à sa façon.
C'est peut-être là où on ça a eu des débats avec Christophe.
Mais c'est chez nous, il n'y a que chez nous qu'on a ces débats-là. On a réussi en 2018. Souviens-toi, en 98, Aimé Jacquet, formidable, le mythe de l'équipe de France qui prend pas un but, cette défense qui a jamais perdu un match, les quatre quand ils sont alignés ensemble, et là on en a fait un mythe et tout. 2018, on gagne la Coupe du Monde, on bat le record de buts marqués dans une Coupe du Monde en phase finale, hein, c'est-à-dire à partir des matchs où ça compte, hein, où normalement tu verrouilles, où si tu perds tu sors.
4 buts Argentine, 4 buts Croatie notamment.
Ah, d'accord. Ouais, et on a réussi quand même. Tu parlais de Pisse-Croix à la fin de la compète, Stephen, tout à l'heure. on a réussi à dire ouais, mais quand même, ouais, c'est vrai, on est champion du monde, mais pas fou le jeu, hein, pas dingo, cette animation et tout. Il nous a mis Matuidi milieu offensif, tout ça. Alors qu'on bat le record de buts, on a la révélation d'un talent mondial, et surtout, on ajoute une deuxième étoile sur le maillot, et on a quand même réussi à aller emmerder Deschamps en disant,
franchement, t'es pas journaliste,
t'as complètement raison.
Mais non, mais dès que tu vois du bleu, dès que tu vois un coq, t'es
toi, dès que tu vois un ballon de foot, t'as des boutons.
Mais Christophe, le Brésil.
Attends, si le ballon Christophe. Est pas mal,
Mario Bartoli.
Le Brésil a dû rappeler quand même Dani Alves, c'est quasiment en pré-retraite parce qu'ils ont un énorme problème au poste de latéral droit. Aujourd'hui, toutes les équipes ont des problèmes. Et là, je suis complètement d'accord avec Simon, c'est qu'on est vraiment en train de se dire ouais, mais on a gagné en 2018, ouais, mais le jeu, franchement, pas top. Hein.
Ouais,
franchement, Didier, ouais, c'était pas. Ouais. Franchement, on s'est fait chier. Regardez, attends, on a marqué 4 buts en finale. Et je crois qu'on est quasiment un des seuls pays à se dire à toujours vouloir critiquer. On lui demande quoi, Didier? C'est de gagner des matchs. On s'en fout comment, on s'en fout avec quelle équipe, on s'en fout qui la ligne, on s'en fout quel système. Tout ce qu'on lui demande, c'est de gagner, bordel. Eh. À un moment donné, faut quand même, ça reste du sport. Il faut gagner. Ouais, ça va peut-être pas être le jeu du PSG où ça va jouer magnifiquement au ballon et ça va faire des passes, ça va être monstrueux et t'as Messi et Neymar devant. Mais à la fin, si on les tape, le Brésil et l'Argentine, on s'en fout comment, quoi. Donc, moi, je suis désolée. Toutes les autres équipes ont des problèmes. Il y a des blessés de partout. Didier part quand même avec une équipe qui est plus que largement cohérente sur le papier et on peut plus que largement le faire.
On se pose pas la question de la manière. Donc j'ai bien compris, Stéphane.
Et en plus, alors, on a bien compris qu'il y a des champs, il voulait bétonner derrière et au milieu aussi. Mais à partir du moment où tu as Mbappé, Benzema, Griezmann, sur le banc, tu as Kingsley Coman, tu as Ousmane Dembélé, il va y avoir du spectacle. C'est pas possible autrement. Alors oui, ça sera costaud derrière et peut-être qu'on va envoyer Mbappé à la course et le talent de Benzema en remise ou Giroud en sortie de banc. Mais il y a des mecs pour faire le spectacle en attaque aussi. Tu peux pas t'ennuyer avec cette équipe-là, c'est pas possible. Alors oui, il y a envie d'être pragmatique.
Pardon ? On s'est pas du tout ennuyé à l'Euro.
Ça fait 3-3 contre la Suisse. Tu t'ennuies contre la Suisse?
Oui, quand tu n'arrives pas à taper la Suisse, je suis désolé.
Mais parce que tu mènes 3-1, 15 minutes de la fin et que tu te relâches en fait, et que du coup, comme tu es sur la vague d'avoir gagné la Coupe du Monde et que tu mènes 3-1, tu te relâches et tu prends 2 buts à la moins moelleux. Mais c'est pas son niveau de jeu.
J'ai compris ton problème, Christophe. C'est que tu n'aimes pas le football.
tu l'as compris ce matin?
C'est ça.
Mais parce que monsieur Dutard était spécialiste, les autres n'ont pas le droit de critiquer. Monsieur fait partie de l'acteur, donc monsieur est un maître.
Attendez,
maintenant de football.
C'est Stéphane qui t'attaque et c'est moi qui
t'attaque. Mais c'est pareil. Voilà. On n'est pas d'accord avec vous, on n'aime pas le football. Non, mais les gars, vous faites un raccourci quand même un peu rapide. Quoi.
Je suis assez d'accord et pour défendre Christophe, il y a beaucoup de Français qui nous écoutent et qui regardent cette équipe de France. Alors oui, vous l'avez rappelé.
Va demander à Riolo s'il n'aime pas le foot. Et tu l'entends parler de l'équipe de France? Il est quand même pas dithyrambique non plus sur l'équipe de France. Il aime pas le foot, Daniel?
Non, mais à quel moment j'ai dit que tu ne connaissais pas le football?
Daniel n'a pas toujours raison.
Tu as dit que le ballon au vol et que le ballon ça me filait des boutons.
Allez, mais c'est vos pantalons, on fait quand même. D'ailleurs, cours de récré, ça veut rien dire. Laisse tomber. Les copains, c'est très intéressant, mais moi je voudrais quand même revenir sur notre débat, parce que quand même il y a beaucoup de Français qui regardent cette équipe de France, quand ils regardent le milieu de terrain, quand ils regardent la défense, ils se disent pas waouh, je vais adorer cette équipe de France.
Parce que les Français sont restés avec cette image de 2018, avec le petit N'Golo Kanté qui courait partout, qui ratissait tous les ballons, avec Paul Pogba, la pioche, qui met la musique dans le vestiaire, qui a un discours fantastique. En finale, ils sont restés là-dessus. Mais le problème, c'est qu'ils se rendent pas compte que N'Golo Kanté aujourd'hui, il a quasiment plus joué un match, que Paul Pogba n'est plus le Paul Pogba de 2018, et qu'il y a des garçons, ils ne connaissent pas Aurélien Tchouaméni, peut-être.
Mais il y a 2021, il y a la Ligue des Nations.
Et on a gagné la Ligue des Nations.
Mais avec ce nouveau système, ça avait peut-être emballé les gens, et là, ils se disent,
comment on a gagné.
Et attends, Tchouaméni et Fofana, ils ont joué 2 ans ensemble à Monaco, hein. Et contre l'Autriche, le match contre l'Autriche qu'on gagne 2-0 en National League, ils ont parfaitement convaincu hein, en étant en sentinelle hein, à 2. Donc je pense que vraiment Didier va jouer en 4-2-3-1, hein, il va jouer sur le même système qu'en 2018.
Ok, on vérifiera tout ça.
T'es excité ou t'es pas excité?
Moi, par la Coupe du Monde, je suis là.
Non, par cette équipe de France sur le papier.
Mais je suis.
Je ne projette pas sur les résultats.
Mais réponds! Arrête de tourner autour du pont, réponds!
Attendez, moi, je suis pas courageux.
On va te fouetter au parmesan sinon.
Quand tu regardes les noms, ça t'excite ou ça t'excite pas?
Alors, c'est ce que je disais, on m'a posé la question. Je suis hyper excité par cette attaque. Je trouve qu'on a l'une des meilleures attaques du monde.
Pas l'équipe alors.
Maintenant, quand tu me proposes le 11 de départ, Mais je suis excité par l'équipe de France, pas forcément que par les joueurs qui la composent. C'est ça que je veux dire. Voilà, j'ai très envie de suivre cette Coupe du Monde. J'ai envie d'être avec l'équipe de France. Je suis à fond derrière les Bleus. Maintenant, celle qui m'a fait vibrer, tu sais c'est quoi? C'est 2006. Yeah, alors, c'est, on n'a pas gagné. Mais cette équipe m'a procuré des émotions comme je n'ai jamais eu. Ouais. Voilà. Mmh. Et je suis pas sûr de retrouver ça avec celle-là. Voilà, c'est tout.
Et il n'y a aucun match où on a fait une démonstration offensive qui correspond au standard du football qui fait rêver et tout en 2006. Hein. À chaque fois, on passe, c'est en s'arrachant et il n'y a aucun match qu'on a dominé.
Il n'y a aucun match où on ferme le jeu. Je parle des matchs qui comptent. Ouais. L'Espagne, un match exceptionnel. Le Brésil, un match incroyable.
L'Espagne, un match exceptionnel. C'est en huitième de finale. Ribéry, il ne met pas son but pour égaliser. C'est pas le même score à la fin.
Un adversaire de même qualité que toi. Lui mettre 4 buts.
C'est ce que je te dis. C'est pour ça que c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait en 2018.
Le jeu développé sur le terrain.
Et c'est vrai que l'Italie, championne d'Europe, c'était fantastique.
Ça fait rêver.
Ok, pardon, je reprends la main parce que vous le savez, il y a un patron dans cette émission et ce patron, je suis désolé de vous l'apprendre.
C'est Pierre Alich.
C'est Karine Léger. C'est pas moi. 10h28, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Sachez que RMC est évidemment radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Du 20 novembre à partir de dimanche prochain jusqu'au 18 décembre, RMC bouleverse sa grille des programmes pour couvrir cette Coupe du Monde avec un dispositif éditorial unique, un studio délocalisé au cœur de Doha. À partir de dimanche prochain, soyez bien avec nous, on vous fera vivre les 64 matchs de la compétition. Pierre Amiche fait son entrée pour nous parler de la Coupe du Monde au Qatar. Oui, oui, à tout de suite sur RMC.
Et maintenant, c'est qui le patron ?
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33, de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi avec Marion Bartoli, Simon Dutin, Christophe Cessieux, Stephen Brun. Dans une dizaine de minutes, le zapping des GG avec quelques informations, notamment Lyon qui arrache un nul. Chanceux, miraculeux, généreux, diront certains, avec ce pénalty dans les derniers instants face à Nice. Vous me direz si ça vous intéresse ou non. En tout cas, les Niçois ont été hyper fair play après la rencontre et ça les honore. Et
ça honore tout à fait. C'est ça, un grand club, à l'image de leurs habitants.
Bien sûr.
Nous sommes fait renfler par les Lyonnais et par les arbitres, comme d'habitude. Et nous ne disons rien, voilà.
Voilà. Vous allez vous faire marquer plus longtemps, comme ça.
Lucien Favre, je ne sais pas si vous avez vu l'interview d'après-match, j'étais très, très, très énervé.
Sur Prime Vidéo, un petit peu. Bon, on en parlera si ça vous intéresse, évidemment.
J'ai l'impression que le deuxième zapping va être un peu plus faible que le premier.
Oh non. J'ai quelques petites surprises.
C'est Simon pour en parler.
Je vais prendre.
Non, monsieur.
Il fait une dizaine de secondes, de toute façon, ça lui suffira.
Allez, le samedi, 10h30, on fait entrer un homme heureux.
RMC. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content.
Un homme heureux.
Je suis tellement content.
Pierre Amiche, bonjour.
Bonjour à tous.
Salut Pierre.
Pourquoi heureux aujourd'hui ?
Eh ben cette semaine, je suis un homme heureux parce que la FIFA a montré son vrai visage. Bon, j'avoue, c'est comme avec Cyril Hanouna, il y avait encore un très léger doute, hein, mais c'était pas non plus le suspense du siècle. On se doutait un petit peu que c'était pas. Voilà. Et puis, on se doutait aussi que dans les locaux de la FIFA, c'était pas la déconstruction la plus effrénée. On se trimballait pas en t-shirt arc-en-ciel en sirotant du maté. Hein. On se doutait bien que c'était pas terrible. Mais en moins d'une semaine, on a eu une jolie déferlante de courage de la part de la plus haute instance du football mondial. Il y a 8 jours, d'abord, via un communiqué, parce que ça commence un petit peu à transpirer côté suisse, Gianni Infantino demande à toutes les équipes qualifiées pour le mondial, je cite, il faut ne pas laisser le football être entraîné dans toutes les batailles idéologiques ou politiques. Personne n'avait rien dit, ça gueulait à peine, mais au moins une bonne chose de désamorcer, hein. On a coupé l'herbe sous le pied, les saloperies de socialo-humanistes. On va pas laisser les gens dire du mal des clients, attendez, au prix où le Qatar a payé la Coupe du Monde, ça va. Alors mercredi, la FIFA est allée encore plus loin, elle a interdit nommément à l'équipe nationale danoise de s'entraîner pendant la Coupe du Monde avec des t-shirts portant un logo en faveur des droits de l'homme. À croire qu'ils sont, je sais pas, contre les droits de l'homme. Imaginez l'ONU ou le CIO qui interdit des badges pour dénoncer le racisme. Ce serait complètement aberrant. Et puis si jamais les Danois portent un pins, un t-shirt ou un logo en faveur, je sais pas moi, des licornes ou de l'anguille roulée, il se passe quoi ? On les exclut de la Coupe du Monde, on leur fout des coups de bâton dans la gueule, je sais pas. Mais ça fait un joli écho à la prise de position toujours courageuse de Noël Le Graët, qui pour sa part préférait que Hugo Lloris ne porte pas de brassard arc-en-ciel au mondial. Ah, c'est normal, faudrait pas choquer les gens. Un arc-en-ciel. J'ai l'impression d'avoir les 3 statues des petits singes, mais vous savez, qui ont toutes les 3 les mains sur la bouche. Il faut rien dire. Rien voir, ce serait dur vu le nombre de morts, et puis rien entendre, c'est encore plus dur, parce qu'il y a environ 250 ONG qui dénoncent le mondial. Il y a tout, hein. Des associations écologistes, féministes, humanistes, altermondialistes, naturalistes, cyclotouristes, évangélistes. En bref, il faudrait venir de Pluton pour ne pas voir que ce mondial, c'est mal. C'est tellement abusé que les pires donneurs de leçons du monde sortent du bois. Même Sepp Blatter est venu expliquer qu'avec lui, eh ben, l'Iran, ils auraient été exclus du mondial. Satan en personne, il est pas sûr de regarder la Coupe du Monde, quoi. C'est incroyable. Et j'avoue que, bon, à l'inverse, ça me saoule aussi un petit peu cette levée de bouclier soudaine à grand renfort d'indignation. Ça fait 10 piges qu'on sait que c'est un scandale. De sa réflexion à son attribution, de son officialisation à sa conception, il n'y a rien qui est en règle, il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien qui est joli. Alors faire les vierges effarouchées, c'est un petit peu trop tard pour être sincère. Et finalement, je sais pas ce qui me fait le plus honte. Si c'est la décomplexion totale de la FIFA qui réduit tout le monde au silence avec cette consigne simple. Bon, et ferme ta gueule et tape dans un ballon. Tellement effrayé à l'idée de voir des gens réfléchir plutôt que de consommer un grand entonnoir enfoncé dans la gorge. Tu vas l'aimer le football? Tu vas le kiffer mon sport universel? Eh oui, si c'est ça le monde des gens, bah, je suis pas sûr de vouloir adhérer. Puis d'autre côté, il y a les gens normaux qui s'intéressent au sport uniquement pour dire à quel point il est vulgaire, dégueulasse, crétin, déconnecté. En gros, on trace une frontière de plus au sol avec d'un côté ceux qui dénoncent la Coupe du Monde et de l'autre ceux qui la cautionnent et puis on sautille d'un point à l'autre en fonction du vent. Vite, vite, laissez-moi faire mon petit message pour dire à quel point c'est choquant. C'est sur quelle chaîne déjà, France-Australie? Pour finir, je suis heureux parce que si tout se passe comme prévu, la Coupe du Monde sera une réussite, hein, sportive et économique au moins. Mais elle symbolisera un monde décadent et j'espère le dernier événement sportif mondial qu'on regardera avec un peu de honte.
Merci beaucoup Pierre Amiche pour cet homme heureux, oui. Il est heureux car la FIFA a dévoilé son vrai visage, si je prends son introduction. Alors vous aussi les GG, heureux ou pas heureux quand vous voyez cette information? Christophe Cessieux.
Je suis heureux d'avoir entendu le billet de Pierre, qui m'a régalé.
Mario Bartoli.
La même chose, mais bon, on en a parlé hein, depuis maintenant quelques semaines de ces débats. Moi franchement, là où je suis d'accord avec Pierre, c'est d'aujourd'hui jouer les vierges effarouchées, de dire oh là là, c'est vraiment tellement mal de faire ça là-bas, alors que ça fait 10 ans qu'on sait que non, ça va être
utilisé. Ça je suis d'accord, mais quand même cette information, c'est le papier de Pierre, c'est la FIFA qui a interdit aux joueurs de la sélection danoise qualifiés pour cette Coupe du Monde de s'entraîner. On parle d'entraînement hein, avec des maillots porteurs de logos.
Mais Pierre l'a dit. On va pas maintenant entre guillemets taper sur le Qatar ou alors froisser le Qatar alors qu'ils ont payé quasiment des milliards pour
ouais, bon, c'est pas parce que tu payes que t'as le droit de tout faire non plus.
Mais oui, mais c'est évident qu'ils vont pas vouloir froisser le Qatar, mais c'était certain. Si tu veux que je te dise, c'est okay. Comme ça, l'argent règle tout.
Simon Dutin.
On se frise les moustaches, mon cher Jean-Christophe.
Ouais, vas-y, tu peux poursuivre.
Oui, bah écoute, on peut revenir sur cette histoire là de moi, il y a quand même toujours cette petite incertitude là, le sponsor du Danemark qui s'est quand même tapé une bonne pub hein sur fond de un petit message
humaine, contre ouais.
Pour ne pas le citer, effectivement, ce message, bon, il n'était pas en 4x4 sur le maillot, hein, je pense qu'il était prévu de la taille d'un logo, on l'aurait même pas vu sur les caméras, donc c'est effectivement l'application d'un grand principe, le sport est apolitique, tout ça, bon, aux Jeux Olympiques, il y a des débats sur ce qu'on les athlètes ont le droit d'afficher aussi.
Ah, donc, tu ne peux rien afficher.
On tombe pas de la chaise non plus, c'est pas l'application d'un règlement, spécialement pour le Qatar, la FIFA a pas serré la vis juste pour cette Coupe du Monde.
Mais encore une fois, l'entraînement, c'est une première.
Oui.
Effectivement, en match, tu n'as le droit de montrer, mais à l'entraînement,
Je crois qu'il y a beaucoup de nations, et notamment, si je dis pas de bêtises, les Pays-Bas qui ont déclaré qu'ils allaient voir des migrants pour s'enquérir de leurs conditions de travail.
C'est là
que
j'allais
arriver. La FIFA va interdire ça.
Ils peuvent essayer, à mon avis. Ça m'étonnerait qu'avec le retentissement que ça va avoir, parce qu'encore une fois, la fédération anglaise, notamment, a annoncé toute une série de mesures, la création d'un fonds pour financer un centre d'accueil pour les migrants, pour les travailleurs émigrés. La rencontre, effectivement, entre des joueurs des Three Lions et des travailleurs migrants à leur camp de base et tout. Bon, je vois pas comment la FIFA ou les autorités qatariennes auraient le pouvoir d'empêcher ça.
Je sais pas, c'est un peu la même
les
chose.
Les caméras des agences du monde entier. Non, justement, je pense que c'est plus efficace en termes de retentissement qu'un petit, effectivement, message. Affiché sur un maillot. Encore une fois, j'en ai un petit peu ras-le-bol qu'on entende toutes ces pseudo-initiatives pour la Coupe du Monde au Qatar, alors que ça dérangeait personne d'aller faire la douche au champagne avec Vladimir Poutine en 2018. Exactement. Qui a fêté la victoire avec nous dans les vestiaires.
Moi, j'en ai un peu marre de ce débat, parce que c'est-à-dire qu'en fait, on s'est pas indigné il y a 4 ans, donc on peut plus s'indigner. C'est-à-dire que si je grossis le trait, c'est-à-dire que bon bah ceux qui s'indignaient pas pour la Première Guerre mondiale,
alors je referme
ce genre d'argument.
Insupportable.
Non mais c'est vrai.
moi, ce qui m'agace aussi, c'est que c'est les donneurs de leçons qui balayent pas devant leur porte. T'as qu'à aller voir les lois anti-immigration au Danemark, qui sous-traitent l'étude des demandes de droit d'asile. Bon, qui est quand même pas le pays le plus progressiste en termes d'accueil des travailleurs migrants sur son sol. Donc là, encore une fois, on n'a pas de leçon de morale à recevoir du Danemark. Et dernière, effectivement, la blanche colombe, Sepp Blatter.
On a l'impression que tu es le Qatar. On a l'impression que
Mais effectivement, je suis un peu agacé. Je me mets à la place.
Le ministère de la communication du Qatar.
Écoute, moi, j'ai l'impression que effectivement,
quand le Qatar est 1 milliard sans PSG, ça dérange personne.
Et quand le Qatar crée des emplois en France, ça fait tousser personne non plus. Donc voilà. Et quand il s'apprête à nous fournir le gaz qu'on peut plus acheter à la Russie, c'est pareil, ça dérange moins de gens. Donc, pour terminer, effectivement, là où je rejoins Pierrot, c'est que le numéro de blanche colombe de Sepp Blatter, je sais pas jusqu'à quand on va le supporter, mais les leçons de morale de Sepp Blatter qui nous dit que le Qatar c'était une connerie, que l'Iran aurait été viré, que Infantino, regardez, il vit à Dubaï et tout, et stop, ça va monsieur Blatter, on a payé pour voir, il y en a ras-le-bol, et la FIFA elle est dans son rôle, elle essaie de nous vendre son petit événement Coca-Cola à Heineken, et puis voilà, tout le monde sera content, on va jouer au foot.
Ok, Christophe, tu voulais réagir. Sur le message, les maillots, est-ce que c'était efficace, est-ce que c'était bien?
Alors, je pense que en l'occurrence, la FIFA en agissant ainsi, genre commandant de tour, voilà ce que vous avez le droit de faire, voilà ce que vous n'avez pas le droit de faire, se tire un peu une balle dans le pied, parce que je me demande ce que va faire la sélection danoise, je me demande s'ils vont aller à l'encontre de la décision.
Non, le directeur général a déclaré, nous regrettons la décision de la FIFA, nous devons
donc
en tenir
compte. Ils vont faire les bons élèves et ils vont baisser leur froc. D'accord, ok.
Ils sont obligés.
Bah ouais, non, mais je suis désolé.
Ils peuvent pas mettre en péril peut-être le futur de la sélection. La FIFA peut décider, peut prendre des sanctions.
De les exclure. Ah ben là, bonjour le scandale international. Si tu vires le Danemark parce qu'il a osé mettre.
Pas les exclure la Coupe du Monde.
Ils vont jamais les virer.
Sur les prochaines compétitions, des trucs comme ça, être interdit de participer aux qualifs.
C'est donc une véritable dictature. La FIFA, c'est la commande en tour, c'est une dictature. C'est comme ça. Tu fais exactement ce que je te dis de faire. Autrement, tu n'as pas le droit de participer.
Au moins, les Danois ont voulu être nickel. Ils ont fait la demande à la FIFA. La FIFA a répondu non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Peut-être qu'ils prévoiront d'autres choses à faire.
Ouais, en tout cas, je pense qu'il y aura beaucoup de caméras du monde entier qui seront braquées sur le terrain d'entraînement du Danemark pour voir comment ça se passe quand même dans quelques jours.
Mais dans tous les cas, il y aura beaucoup de caméras braquées, c'est la Coupe du Monde.
Oui, mais là, il y en aura peut-être un peu plus. Ça. Est-ce que tu aurais été forcément, est-ce que toutes les caméras du monde entier seraient à l'entraînement du Danemark? Je suis pas sûr. Alors que là, il y en aura peut-être un peu plus qu'à l'habitude.
Non, après moi je voulais dire que cette équipe de France, à partir du moment où il y a Benzema et Kylian Mbappé, elle m'excite. Donc,
d'accord. Ah oui, t'es resté bloqué sur le débat de 10h. Je me disais que sur un débat politique, t'avais pas envie d'y aller.
Tout ça pour dire qu'à 9 jours de la Coupe du Monde, je trouve ça un peu tard. Et Simon l'a dit, de commencer à parler de ça. Moi j'ai envie de parler
en parler maintenant. Ça fait quand même
ça fait plusieurs mois qu'on en discute.
On a des débats. Donc maintenant c'est terminé. On n'en parle plus. Maintenant place au sport.
Place au football.
Comme a dit Didier Deschamps pendant la conférence de presse et chez nos amis de TF1, il a dit, moi, en tant que sélectionneur, voilà, il faut laisser les sportifs de côté et arrêter un petit peu, en gros, de nous embêter avec ça. C'est pas aux sportifs de régler tous les problèmes de la Terre. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur ce sujet. Mais évidemment, si la FIFA interdit d'autres choses, on en parlera dans cette émission, car nous sommes là aussi pour dénoncer. Et je sais que vous êtes des grandes gueules. Ça porte bien son nom. 10h45, on se retrouve dans quelques instants. Nice, dis donc, un partout à Lyon. Alors que les Niçois avaient.
Ils ont eu du pot, hein. Oh là là.
Les Niçois avaient 3 points pour eux, mon cher Christophe.
C'est un scandale, qu'est-ce que tu veux points. C'est encore
le retour du pénalty pour Lyon. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h49 de retour dans les grandes gueules du sport avec Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Simon Dutin, Stephen Brun à partir de 11h. Caroline Garcia est-elle entrée dans l'histoire du tennis français en remportant le Masters? Il y aura un bras de fer. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre. Et à partir de 11h40, c'est votre moment. Vous composez le 32-16. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG. Vous venez comme ça, tap, venez lui claquer le museau. N'hésitez pas à composer le 32-16. Tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des GG. Le retour.
Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. Et attention, si vous me dites je m'en fous, vous n'avez pas le droit à la parole. Ça, c'est pour mon ami Simon Dutin. La première information à vous donner dans le zapping des GG, c'est Lyon qui arrache un nul chanceux, voire miraculeux face à Nice. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
On s'en fout pas.
Simon Dutin.
Je m'en fous pas.
Ok. Marion Bartoli.
Je m'en fous pas.
Stéphane Brun.
Je vais passer mon tour.
Les Lyonnais ont donc arraché le nul un partout hier soir à domicile face à Nice dans les dernières minutes grâce à un pénalty généreusement accordé. L'auteur de la faute présumée sur Alexandre Lacazette s'est exprimé après la rencontre. Il s'agit de Jean-Claire Todibo. Et vous allez voir, franchement, il y avait matière à... Je vais pas dire scandale, mais
Si, tu peux le dire.
En tout cas, être un petit peu énervé, voilà, parce qu'Alexandre Lacazette, si vous n'avez pas vu les images, tombe un peu tout seul et Jean-Claire Todibo arrive un peu plus tard. Voilà, voici ce que nous dit le défenseur niçois.
C'est une décision sévère. Après, j'ai parlé avec l'arbitre. À vrai dire, je l'en veux pas parce que l'erreur, ça fait partie de notre sport. L'arbitre a le droit de se tromper. Je lui ai demandé de checker après le match lui-même à la vidéo, mais je l'ai pas revu, malheureusement. Il est tombé avant même que je le touche réellement. Mais bon, après l'arbitre, il a jugé autrement et ça fait partie de notre sport.
Incroyable ce fair play, non?
Ouais, surtout que Fèvre derrière dit il faut pas rester fixé sur ce penalty, c'est le football et parfois c'est difficile, surtout lorsqu'on revoit les images. Bah ouais, écoutez,
je connais plus d'une équipe
voilà
qui aurait
une équipe fair play. Voilà ce qui est une équipe fair play. On se fait fesser, on se fait voler par l'arbitrage. Évidemment, ça se joue au Groupama, c'est quand même rare que le Lyon soit défavorisé dans ce stade. Bah voilà, les joueurs le disent pas. Non mais voilà, on s'est fait enfler, il faut bien le reconnaître. Alors qu'on tenait une victoire importante hein, pour le GC Nice qui va quand même beaucoup mieux depuis quelques semaines, mais là aller gagner à l'extérieur à Lyon, ça aurait quand même été autre chose et franchement on méritait la victoire.
Simon, l'arbitre de la rencontre siffle le penalty, considérant qu'il n'y a pas une erreur manifeste, le VAR ne revient pas dessus.
Moi je veux pas, j'ai dit ça m'intéresse, donc du coup normalement j'ai pas le droit de parler tout à l'heure du session.
Oh là là,
il y avait pas penalty.
On dirait que ça se fait au niveau de la diva.
J'avoue, bah, je m'adapte. Il y avait pas penalty selon moi, donc je comprends le courroux de mes amis niçois. Voilà, hier les Bad Guns fêtaient leurs 35 ans quand même, c'était un peu le feu au Groupama.
Donc on aura fait
et un petit exemple d'arbitrage maison au Groupama, on va le dire comme ça.
OK, la théorie du complot, j'ai bien compris. Marion Bartoli.
Non mais c'est un pénalty scandaleux, il n'y a jamais pénalty, Lacazette il rate son contrôle, il sait très bien qu'il n'a pas pouvoir continuer son action, il tombe tout seul sur le ballon et l'autre il siffle pénalty. Mais ce que j'arrive pas à comprendre c'est que effectivement l'erreur est humaine, tu peux faire une erreur, il n'y a pas de souci, mais que le VAR ne l'appelle pas en disant non il n'y a pas pénalty, enfin, je veux dire de la tribune de presse, tout le monde l'a vu, tous les journalistes, j'ai écouté toutes les émissions d'après le match, etc. Tous les journalistes l'ont vu, il tombe tout seul avant que le défenseur arrive sur lui, que Todibo arrive sur lui et tu siffles penalty. C'est un scandale. Je n'ai pas d'autre mot. C'est un scandale.
Alors que Seb Blatter,
c'est un scandale.
Il n'y a pas de vanne à faire. Il y a pas, je m'en moque. Il n'y a pas de vanne. Si tu me dis je m'en fous, tu n'as pas le droit à la parole. Voilà, c'est comme ça. Même si c'est une vanne, même si elle est très drôle, même si tu me donnes un chèque, c'est pas possible. C'est le règlement de ce.
Mec, Stephen. Il se laisse pousser les cheveux, il se prend pour un autre.
J'applique. Ça me va bien d'ailleurs ou pas?
Non,
pas
ça trop. Va très bien, toi, Christophe. C'est un repique derrière, c'est honteux.
Je
fais pas un petit bun.
C'est vrai que je fais pousser les cheveux, je tente. Voilà.
On dirait un zadiste, un mec qui est devant la gare du Nord avec un diabolo et
avec un chien. Et deux chiens. On dirait un punk à chien.
Alors, tu crois pas s'il vient dire je viens d'acheter une maison à Notre-Dame-des-Landes. Voilà, parce que je m'entraîne. Voilà. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est une Ferrari de Schumacher vendue pour un montant record. On s'en fout pas, Stephen Brun.
Si c'était ses skis, ça m'aurait intéressé, mais.
Non, t'as pas le droit. C'est honteux. T'as pas le droit. Ouais.
On va pas y aller sur celle-là, non. Merci Stephen. Simon.
Je m'en fous.
T'as pas le droit, Stephen, franchement, t'as pas le droit. Marion Bartoli.
Je m'en fous pas.
J'ai honte de rire de gêne à cette vanne. Christophe Cessieux.
Non, je m'en fous pas, non.
Alors, une monoplace pilotée par Michael Schumacher lors de la saison 2003 de Formule 1.
Arrête de rigoler.
Mais non, je suis...
Enchaîne.
On se dédouane, on rigole quand même, Jean-Christophe.
Mais de honte, je n'arrive pas à y aller. A donc été acheté pour une somme record. C'était cette semaine lors d'une vente aux enchères à Genève, en Suisse. Le véhicule a été vendu pour la somme de 13 000 millions de francs suisses. En euros, c'est quasiment la même chose. Un montant qui a donc, en tout cas, qui a fait exploser, pardonnez-moi, les estimations. C'était plutôt entre 7 et 9 millions. Donc, au final, c'est 13 millions. Rappelons que Michael Schumacher a été champion du monde avec cette monoplace en 2003. Christophe Cessieux.
Alors, d'abord, une question, parce que j'ai pas réussi à trouver l'info, mais peut-être que toi, en tant que grand Manitou, tu le sais. Est-ce que cette voiture appartenait à la famille Schumacher?
Je suis pas sûr, non.
Ouais, je suis pas sûr.
J'ai pas la confirmation officielle, mais
si
je suis pas sûr.
Si c'est le cas, ça veut dire que on rappelle qu'il est quand même hospitalisé à domicile depuis c'est 2009 son
accouchement.
ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Même si la famille Schumacher et Michael a gagné beaucoup d'argent tout au long de sa carrière, une hospitalisation à domicile depuis des années, ça coûte très cher. Je sais pas si c'est une propriété de la famille, mais bon, après ils ont quand même un peu d'argent. Ils ont acheté une maison il y a 2-3 ans à Florentino Pérez à 30 millions d'euros. Mais voilà, après ça me choque pas. Moi je crois que le ballon de Maradona du match Argentine Angleterre est parti à 11 millions. Avec 2 millions de plus, tu t'offres une Ferrari, bah c'est pas mal finalement. Hein,
ouais. Finalement, c'est mieux. Ouais, okay. C'est mieux. Simon, tu m'avais dit je m'en moque ou pas ?
J'ai dit je laisse, oui. J'ai dit ça ne m'intéresse pas.
Ça t'intéresse pas. Marion Bartoli sur le sujet rapidement.
Non, c'est une des Ferrari qui a le plus de victoires de l'histoire de la marque. Et en fait, l'acquéreur a réenchéri à la fin de 500 000 francs suisses et c'est comme ça qu'il a remporté la voiture parce qu'il se tapait, ça durait pendant des heures et des heures. La vente aux enchères, à la fin, il a augmenté 500 000 francs suisses et c'est comme ça qu'il a obtenu. Moi, le prix ne me choque pas du tout.
T'as déjà fait une vente aux enchères, Marion, ou pas ?
Avec tes raquettes ?
J'ai ça.
Pour les œuvres caritatives.
Okay. Elle a été vendue
et le bénéfice, l'argent récolté, d'accord, a été donné à une œuvre caritative.
Oui, sachez que Marion m'a déjà donné une raquette, justement, ah bon, pour une association. Pas pour moi personnellement, pour une association et pour justement faire partir cette raquette aux enchères.
Je l'ai vu chez toi, la raquette.
Et j'ai pas payé un sou. Je l'ai volé. Oui, je l'ai volé, c'est vrai. 10h56. Non, Marion, évidemment, c'est une blague. 10h56, on se retrouve dans quelques instants pour le bras de fer des GG. Caroline Garcia, est-ce qu'elle est entrée cette semaine dans l'histoire du tennis français? Les GG ne sont pas d'accord. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.